Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Plusieurs tentatives d'émigration clandestine vers l'Europe déjouées depuis la Tunisie. La garde nationale fait état du sauvetage de 80 personnes. L'affaire des magistrats révoqués en Tunisie, le tribunal administratif de Tunis leur a donné gain de cause la semaine dernière, mais le ministère de la Justice souligne qu'ils font l'objet de poursuites judiciaires. Dans votre journal, Ella Ben Youssef, vice-présidente d'État Catol. L'armée israélienne annonce avoir neutralisé un tunnel creusé depuis la bande de Gaza par le Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Une annonce une semaine après une escalade militaire de 3 jours entre Israël et le djihad islamique. Nous écouterons l'ancien député européen Patrick Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. La France fait part de son émotion après l'incendie qui a frappé dimanche l'église copte Abou Sifine au Caire. 41 personnes ont été tuées. Attribuée sous conditions de ressources, l'allocation de rentrée scolaire est versée depuis ce mardi à plus de 3 millions de familles en France. Originaire de Casablanca au Maroc, l'écrivaine Rita Desrosiers publie un roman dont l'action se situe en Angleterre, l'enfance des Parker. La romancière s'est nourrie de la littérature anglaise, notamment Virginia Woolf. Rita Desrosiers sera l'une de nos invitées. La Tunisie annonce avoir déjoué dans la nuit plusieurs tentatives d'émigration clandestine vers l'Europe. La garde nationale affirme avoir empêché 5 franchissements des frontières maritimes. Elle fait état du sauvetage de 80 personnes, dont 35 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne, les autres personnes étant des personnes tunisiennes. Cela intervient après un week-end au cours duquel plus de 650 candidats à l'exil ont été interceptés ou secourus par les autorités tunisiennes. Les 57 juges révoqués en Tunisie font l'objet de poursuites pénale, une annonce du ministère de la Justice. Les magistrats révoqués par le président Kais Saied ont obtenu gain de cause, la mesure ayant été suspendue par le tribunal administratif de Tunis. Pour Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti État Catol, cette décision a été prise sous la pression internationale, mais elle reste inquiète pour l'état de droit en Tunisie, dit-elle, notamment après l'arrestation de la maire de Tabarka. Ella Ben Youssef.
C'est une décision, non, elle n'est pas totalement indépendante. Heureusement qu'elle a eu lieu, d'ailleurs, parce que c'est important que le tribunal administratif aussi prenne ses mesures, joue son rôle aussi, mais je ne pense pas que c'est complètement indépendant, malheureusement. Pour une vitrine et pour de l'affichage, suite à des pressions de l'international sur le président de la République. Ça rappelle un peu la période de Ben Ali, où il y a eu quelques décisions comme cela avec la Ligue des droits de l'homme et où on remet des personnes dans leurs fonctions pour faire plaisir à d'autres. L'état de droit est en train de reculer en Tunisie. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe avec les suspensions dans les festivals en Tunisie, des pièces de théâtre, des one-man shows, des présentations culturelles, où aujourd'hui nous ne savons plus qui prend les décisions. Est-ce que c'est le ministère de la Culture qui prend la décision de laisser diffuser ou pas une prestation intellectuelle culturelle, ou est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur et la police et les syndicats des polices qui décident qui passe, qui ne passe pas. Il y a un grand problème aujourd'hui de recul, d'un flou total. Qui prend la décision, qui dirige ce pays, qui fait quoi, est un réel problème aujourd'hui en Tunisie. Bon, aujourd'hui, il y a une femme qui est emprisonnée, la mairesse de Tabarka, qui est emprisonnée sans cause. Nous sommes inquiets pour ce jugement où le dossier n'a pas été instauré avec aucune procédure judiciaire correcte qui a été mise en place. Seulement, cette femme, elle a été menacée et aujourd'hui, elle est en prison alors qu'elle n'a absolument rien à faire, seulement vouloir instaurer la justice et instaurer la loi dans sa commune. Le pays est dirigé sans aucune vision. Le pays est dirigé par une seule main, par une nouvelle dictature qui s'installe dans notre pays, où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne, ce qui est inadmissible dans un pays démocratique qui a fait une révolution en 2011 et nous ne devrions pas l'oublier, même si le président est un juriste, et c'est ce qui nous fait encore plus mal dans cette façon de gérer le pays. Normalement, il sait très bien comment les lois fonctionnent dans notre pays, comment les institutions de l'État fonctionnent dans notre pays, et que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant qui permet de créer un équilibre au sein de notre pays, que le président de la République n'a pas le droit de créer cette ingérence.
Et Laban Youssef, vice-présidente du parti État catholique en Tunisie, elle répondait à Loïc Barrière. Les dernières troupes françaises ont quitté le camp de Gao, au Mali, un départ après 9 ans d'intervention militaire. Elles vont désormais se redéployer dans les pays voisins, au Sahel. La France fait part de son émotion après l'incendie qui a frappé dimanche l'église copte à Abou Sifine au Caire. 41 personnes ont été tuées. Le feu causé par un court-circuit s'est déclenché au milieu d'une messe. Par la voix du Quai d'Orsay, Paris dit rester pleinement solidaire des autorités et du peuple égyptien dans cette épreuve. L'armée israélienne a annoncé avoir neutralisé un tunnel creusé depuis la bande de Gaza par le Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Une annonce une semaine après une escalade militaire de 3 jours entre Israël et le groupe djihad islamique avant un cessez-le-feu. Les bombardements israéliens ont fait des dizaines de morts entre le 5 et le 7 août dernier. Éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick souligne que c'est la première fois qu'Israël mène des attaques de manière préventive. Patrick Le Yarrick.
La nouveauté en quelque sorte de cette affaire, c'est qu'Israël a déclaré faire des frappes préventives contre des dirigeants du djihad islamique. C'est-à-dire que si le djihad islamique était endormi, ils ont réussi à le réveiller, tout en mettant de côté le Hamas comme force avec lesquelles on pourrait aujourd'hui dialoguer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver toujours plus radical que soi dans une situation où les populations sont totalement écrasées, appauvries, affamées et qui vont manquer de plus en plus d'eau. Donc ce concept de frappe préventive, alors que aucune chancellerie au monde, même pas je crois l'Organisation des Nations Unies, n'a élevé la moindre protestation et demandé d'arrêter, est particulièrement abject au moment où on fait des remarques justifiées d'ailleurs à Monsieur Poutine sur sa manière de mener la guerre contre les Ukrainiens.
La haute commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est élevée contre le nombre extrêmement important d'enfants tués lors de cette offensive.
Oui, on estime à peu près 40 personnes tuées, mais je pense que c'est plus que cela, dont de nombreux enfants. Ces enfants-là ne sont adhérents à aucune organisation djihadistes quelconques et ne font strictement de mal à personne. Ils demandent à vivre. Donc, oui, il faut cette protestation, mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut faire cesser cette impunité, voire cette complicité envers les dirigeants israéliens aujourd'hui.
Patrick Le Yarrick, ancien député européen, éditorialiste à l'Humanité. Les talibans ont célébré le premier anniversaire de leur retour au pouvoir à Kaboul, une prise du pouvoir après une offensive éclair menée sur tout le territoire afghan contre les forces gouvernementales de l'époque. Et malgré leurs promesses, la situation des femmes depuis s'est considérablement dégradée. Elles n'ont pas le droit de sortir, sauf absolue nécessité et en burqa. Elles ont été écartées des postes de fonctionnaires, des collèges et des lycées, interdites également de voyager sans être accompagné d'un homme. Les mariages précoces et forcés sont aussi en forte hausse. L'Afghanistan, où des inondations provoquées par de fortes pluies ont tué une trentaine de personnes et détruit des dizaines de maisons. Un drame dans l'est du pays. Des dizaines d'Afghans meurent chaque année à cause des pluies torrentielles, en particulier dans les zones rurales pauvres. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation de rentrée scolaire est versée depuis ce mardi à plus de 3 millions de familles. La revalorisation de 4% votée il y a quelques jours par le Parlement sera toutefois perçue dans un second temps. Pour bénéficier de cette allocation, il faut avoir à charge un ou plusieurs enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé. Pour bénéficier de cette allocation, il ne faut pas dépasser certains plafonds que les caisses d'allocation familiale déterminent à partir des revenus perçus en 2020. Originaire de Casablanca au Maroc, l'écrivaine Rita Desrosiers publie un roman dont l'action se situe en Angleterre. L'enfance de Parker. La romancière s'est nourrie de littérature anglaise, notamment Virginia Woolf, Rita Desrosiers.
Quand j'ai démarré l'écriture de ce livre, je voulais écrire quelque chose d'assez fantaisiste. Finalement, l'histoire de l'enfance de Parker s'est révélée beaucoup plus profonde qu'elle en avait. Alors, à la surface, le livre accueille le lecteur dans une atmosphère qui est chaude, à l'intérieur d'une bibliothèque vivante, qui est desservie par un couloir dans une grande demeure anglaise. Donc au départ, ça a été écrit pendant la période de la pandémie et j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose d'un peu drôle et de fantaisiste. Et il y a d'ailleurs un petit peu d'ironie hein, à l'intérieur du texte. Et peu à peu, effectivement, le texte s'est transformé en quelque chose d'à la fois drôle et d'à la fois profond.
Alors, vous décrivez une société britannique en plein changement après la Seconde Guerre mondiale. C'est finalement dans les années 50 qu'a commencé le monde que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ça s'est passé dans les années 50, mais en réalité, ça aurait pu se passer à une période de transition. Ça me paraissait être la meilleure période pour parler de la transition dans laquelle on est. Aujourd'hui, on a vu quand même avec cette pandémie une accélération d'énormément de processus qui étaient en cours avant et qui se sont mis précipitamment à s'accélérer. Je pense au travail depuis la maison, je pense au fait que la marchandise arrive chez nous. Il y a eu énormément de changements dans notre mode de vie. Je pense aux réseaux sociaux, hein, à la parole partagée, à la distance sociale, à l'incompréhension. Je pense à l'intimité selon le milieu social, le mode de vie. Je pense à la catharsis par l'expression artistique, qui peut être très différente, hein, selon le milieu social. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette période se prêtait bien pour avoir un regard excentré, un peu lointain, hein, parce qu'on voit mieux les choses quand on les voit en surplomb, d'un peu loin. Et j'ai trouvé que les caractéristiques, effectivement, étaient bonnes pour décrire tous les thèmes qui m'occupent actuellement.
Alors, il y a une atmosphère particulière dans votre roman. On découvre la campagne anglaise, les falaises du sud de l'Angleterre, puis les Landes du Nord. Vous avez grandi à Casablanca, au Maroc. L'Angleterre a toujours été pour vous une source d'inspiration ?
Oui, pour une raison assez simple finalement, c'est que j'ai toujours trouvé comme foyer culturel et intellectuel dans la littérature anglaise ce qui me plaît et qui fait le lien finalement avec ce côté oriental que j'ai, parce que les personnages sont absolument centraux dans la littérature anglaise. C'est-à-dire que si je devais situer mon écriture, j'écris un peu comme une portraitiste. Je donne vie à mes personnages tels qu'ils s'offrent à moi, en fait, hein, et je scrute leurs gestes. D'ailleurs, l'incipit n'est ni une pensée philosophique, ni une condition météorologique, ni c'est un personnage qui accomplit un geste. C'est à partir des gestes que je comprends l'intimité des gens. C'est-à-dire que dans mon éducation effectivement orientale, le dialogue n'est pas primordial. C'est-à-dire qu'on comprend à partir des gestes, et j'ai toujours compris les gens à partir des gestes, et j'ai toujours conversé à partir des gestes. Beaucoup de choses ne sont pas dites, beaucoup de choses passent par le regard, par la main, et c'est vrai que la littérature anglaise a toujours été pour moi un foyer, parce que c'est une littérature qui est centrée sur les personnages. On ne cherche pas, quand on écrit un peu à l'anglaise, j'ai envie de dire, on ne se dit pas, tiens, je vais raconter telle histoire, quels sont les personnages qui vont s'adapter à cette histoire. Le mouvement est inverse, c'est-à-dire on a des personnages, et l'histoire finalement vient se greffer au-dessus de ces personnages. Je décide jamais d'ailleurs, hein, quel sera le dénouement de mon histoire, comment elle va se dérouler, etc. Je regarde le personnage et l'histoire se pose brique à brique au fur et à mesure, et elle se concentre sur la personnalité des gens, et les événements se déroulent selon la circulation entre les consciences respectives de chacun des personnages.
Alors, vous aimez la littérature anglaise, on pense à Jane Austen notamment quand on vous lit.
Alors oui, par transition, effectivement, puisque Virginia Woolf a beaucoup lu Jane Austen. Moi, j'ai surtout lu Virginia Woolf, même si j'ai aussi lu Jane Austen. Je comprends. Oui, effectivement, il y a cette intimité explorée. Il y a toutes les briques. En tout cas, tous les éléments symboliques sont là, effectivement. J'ai un attachement particulier à Virginia Woolf et que j'ai beaucoup lu. Et je continue à lire d'ailleurs parce que il y a dans la littérature de Virginia Woolf toujours différentes clés. Selon qu'on lise le texte dans un état d'esprit ou dans un autre, on arrive toujours à trouver une nouvelle interprétation du texte. Et j'écris aussi avec plusieurs couches, c'est-à-dire que j'ai une structure qui se met en place, je relis le texte et au fur et à mesure, je rajoute des couches pour que les angles de vue s'élargissent, s'agrandissent. Donc j'intègre de nouvelles notions et mon texte a été réécrit, je ne sais pas, une centaine de fois peut-être.
Rita Desrosiers, elle publie un roman intitulé « L'enfance de Parker ». Elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.